Chapitre 13. Élégie. 1. Pocedogni mi aspeme. Si toute lueur d'espérance doit se dissiper de mon âme, si pour moi aucun sentiment de pitié ne te vient, si tu sembles chaque jour davantage te divertir de mes tourments, de qui faudra-t-il donc que je souhaite consolation et charité? Hélas, où porterai-je mes vœux? En qui déposerai-je ma confiance si tu te montres constamment indifférente à mes plaintes, à l'expression sincère de ma ferveur si profonde? Amour, regarde-nous, décide donc entre nous, car je veux que tu sois mon arbitre. Si mes plaintes n'ont point de motif raisonnable, je comprendrai et j'admettrai que tu confies ton arc aux mains de celle qui se fait de mes chagrins un plaisir. Un condamné, qu'attend la mort fatale, supplie son souverain, quelque injuste, quelque cruel qu'il soit, de lui faire grâce. Ô toi, qui surpasses en charme de corps et d'âme les plus belles, comment peux-tu n'opposer que des gestes de dédain à celui qui t'offre tant de respect, d'admiration et de tendresse? Impitoyable, capricieuse beauté, d'autant plus insensible à mes maux que les feux que tu allumes en moi sont plus ardents, pouvais-je m'imaginer que des vertus, des charmes si dignes du ciel, dussent un jour devenir, pour ceux qu'ils captivent, une cause d'inquiétude, de honte et de désespoir? Hélas, je m'imaginais qu'on avait, au contraire, le droit de voir dans ces dons de beauté si précieux uniquement une source de bienfaits, un gage divin de félicité parfaite, une vision déjà des béatitudes que l'autre vie nous promet. Mais, méchante, de quelle douceur céleste ta beauté nous fait-elle promesse, ici-bas? Tu ne te montres parmi nous que pour nous abreuver d'amertume, nous faire goûter la saveur de la mort. Pourtant, celle dont la mission rare est d'assurer ici-bas la félicité des autres, et qui leur refuse cette félicité, mérite beaucoup de souffrir elle-même les misères qu'elle provoque. Cette joie que tu ne veux pas me donner, c'est l'amour qui m'en apprend l'existence. Et il veut que je t'en entretienne, que je te la réclame, que je t'en expose enfin les conséquences heureuses pour tous. Et je pense que tu chercheras à mériter le pardon de l'amour. Ah, laisse-moi te convaincre par mes vives prières. Ne me repousse pas, ne méconnais pas ce monde qui t'adore. Ne méprise pas le peu que nous pouvons valoir. Le vrai mérite ne doit pas se cacher, se renfermer en lui-même. Il apporte à tous d'autant plus de prix, il augmente sa valeur, d'autant plus qu'il est plus rare dans le monde. Ainsi, les clartés d'une étoile brillent davantage dans la poussière de l'obscurité. Trop jalouse des biens qui ne sont qu'à toi, tu m'infliges impunément, sans courir aucun risque, les pires supplices, et tu n'en parais que plus orgueilleuse. Fût-il jamais destin plus lamentable, n'avoir pour récompense de ton amour fidèle et dévoué que des dédains, une mort de chaque instant? Oh, je le souhaiterais, ces grâces merveilleuses que le ciel si rarement accorde aux mortels devraient être enlevées à toi pour être reportées à une femme plus compatissante. Et cependant, malgré tes répulsions méchantes, je sens très bien que je n'ai pas le courage de te retirer mon cœur, et que, si quelque autre femme tente de le charmer, ses galanteries me seront aussi insipides qu'inutiles. Mon cœur peut-être, dans sa fidélité même, puise l'espoir d'exciter un jour dans toi une attention charitable. Il a, malgré tout, la force de croire en un temps plus favorable et de recevoir enfin de toi le bonheur. Si les femmes, en général, consentent trop aisément à être trompées par la ruse et par l'imposture, il me semble que, sur toi, la sincérité peut avoir plus de puissance. La sincérité fut toujours ton idole, et sans doute, elle saura, dans sa splendeur, me donner devant toi d'autres apparences que celles d'un amour vulgaire. Ô vous, qui osez par d'abominables mensonges m'accuser de trahir, comme ferait le commun des hommes sous le coup du dépit ou de la rancune celle que j'aime, rétractez vos paroles perfides et montrez donc à nu votre malignité. Car je déclare qu'entre toutes les femmes, les plus ornées de vertu et de grâce, celle que j'aime est la plus digne de respect. Et toi, démon des gens de bien, déité des pervers, calomnie, sache que, nourrir dans mon cœur, pour la femme que j'aime, une flamme impure, serait commettre un outrage si grand qu'il m'est impossible de le qualifier. Ce serait attenter à son honneur et souiller sa gloire. 2. Dia piansi e sospirai. Infortuné que je suis, j'ai déjà tant versé de larmes que je croyais avoir pour toujours épuisé les vertus de la douleur. Mais la mort a réveillé dans mon âme la force de souffrir. Et ma voix, mes larmes, ont encore à exprimer des regrets où se confondent les émotions des deux pertes cruelles que je viens d'éprouver. Ô mon frère, ô mon père, objet de mon fidèle amour, je ne sais lequel de vous me cause par sa mort l'affliction la plus vive. Il est vrai que, si je vous aime dignement, je dois me réjouir que vos âmes soient retournées dans le séjour céleste. Car convient-il de s'affliger pour celui qui, délivré enfin de ses entraves corporelles, présente à Dieu la gerbe abondante de ses vertus? Pourtant, quel cœur serait assez calme pour ne pas s'attendrir à l'idée de ne jamais revoir ici-bas l'être qui le mit au monde et qui lui servit toujours toutes les ressources du corps et de l'intelligence? Plus notre âme est sensible, plus nos douleurs sont profondes. Et tu sais bien, mon père, de quelle sensibilité tu m'as doué. Ah, si je n'avais la foi que tu braves aujourd'hui dans le ciel cette mort que tu craignais ici-bas, je resterais inconsolable. Notre âme est tellement attachée à sa dépouille périssable que plus elle s'abandonne à l'erreur, plus la mort nous paraît affreuse. Toi, avant que tu aies été rappelé dans le sein des cieux, le soleil avait, pendant 90 fois, baigné, à la fin de sa course annuelle, son flambeau dans les ondes de l'océan. Daigne à présent veiller sur moi, qui subsiste dans un état de mort. Purifié dans ton être, tu n'as plus aucune appréhension de changer de nature ou de pensée. Ah, je ne sais comment te dire, avec quelle ferveur j'envie ta situation d'affranchi du trépas. Ô mon père, ô mon frère, la fortune et le temps, qui, parmi des plaisirs douteux, traînent sur leur chemin des peines trop certaines, n'essaieront même plus de pénétrer dans le séjour où vous êtes. Aucun nuage ne ternira votre bienheureuse lumière, vous ne serez plus les esclaves de la nécessité, les jouets du hasard. Et le soleil ne pourra, au milieu de ses plus chaudes flammes, rien ajouter à la splendeur de vos heures. Ta mort, ô bienheureux père, me pousse à désirer davantage la mort. Ma pensée te voit sur des routes de clarté où les joies du monde nous engagent rarement. Non, la mort n'est pas une misère pour celui qui n'a que des vertus à montrer au roi des domaines célestes. Le dernier jour de son existence terrestre est le premier de son véritable bonheur. C'est là, au pied du trône de Dieu, que j'ai l'espérance de te retrouver, si, par ma sagesse, je parviens à me dépouiller de la force du monde où je finis. Et comme le pur amour d'un fils pour son père ne peut qu'augmenter dans les cieux, je goûterai tout à la fois ta félicité et la mienne en rendant gloire au divin Créateur. »